Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Le grand oral des grandes gueules.
Et là, regardez bien ou écoutez bien ce qui va se passer. Éric Piolle, bonjour.
Oula, rien. Quelle mise en
quel
scène.
Effet.
Quelle mise en scène.
Éric Piolle n'est pas c'est pas la politique de la chaise vide. N'est pas encore arrivé. Il a un petit souci de taxi. Il devrait être là d'ici.
Il vient pas en vélo.
Deux minutes. Bah,
peut-être. Il a peut-être pas trouvé de vélib.
Sans vouloir le défendre, si ça se trouve, il vient en vélo.
Hein. Il a peut-être pas trouvé de vélib à la gare de Lyon.
Peut-être.
Ou de trottinette.
Ou trottinette, surtout qu'elles sont bridées maintenant, 10 km.
Ce serait pas un président normal finalement, ouais. Celui qui arrive en retard, ça peut arriver à tout le monde.
Alors,
j'essaie de prendre sa défense.
Globalement, les présidents de la République sont toujours en retard à leur rendez-vous. C'est sauf vrai. Que lui, il n'est pas encore. Il aspire à devenir président de la République avec les Verts. En attendant qu'il soit là, ça va nous donner l'occasion de parler quand même de cette primaire. Parce qu'on a trois candidats déjà déclarés sur la ligne de départ de la primaire des Verts. Deux hommes, une femme.
On a donc Yannick Jadot, on a Sandrine Rousseau et Éric Piolle. Alors on va voir d'ailleurs ce qui distingue les trois avec Éric Piolle dans un instant, le maire de Grenoble. Il y a une primaire écologiste. Mais alors la dernière fois qu'il y a eu une primaire écologiste, finalement ça a servi à rien puisque le candidat écologiste, c'était Yannick Jadot qui l'avait emporté il y a 5 ans, enfin 4 ans et demi, plutôt 6 ans et demi. Et finalement il s'est rallié à Benoît Hamon pour faire 6%. Et d'ailleurs, les écologistes ont dit, si c'était pour finir à 6%, peut-être qu'on aurait dû y aller tout seul.
Oublié, ça.
Voilà. Et oui, tu avais oublié ça. Alors, est-ce que cette fois-ci, c'est la même chose? C'est-à-dire que finalement, on va voter pour un écolo et cet écolo devra se ranger derrière Anne Hidalgo ou je ne sais pas, Carole Delga ou je ne sais pas qui.
Il n'y avait pas l'histoire.
Ou est-ce que vraiment, il y aura une candidature écologiste à la présidentielle et qui fera mieux que les candidats précédents?
Quand Hulot avait, on avait préféré.
Mais c'était Eva Joly.
Eva Joly.
Et ben c'est Eva Joly qui avait été choisie.
Voilà, c'est ça.
Mais il y a eu Louis Pietz comme candidat aussi.
Qui avait abandonné. Non, et Noël Mamère finalement. Et Noël Mamère, qui a fait le meilleur score?
Mamère.
C'est Noël Mamère, mais c'était 5%. Donc il y a la barre des 5% à franchir. Hein.
D'accord. Oui. Bon, ça le fait pas venir pour autant.
Hein. Non, on permet. Thomas Porcher, les écologistes. Est-ce que c'est leur moment? Est-ce que c'est leur élection?
Quand même, ils ont fait un bon score aux européennes. Là, ils s'en sortent. Par exemple, Bayou était le deuxième, c'est ça, hein,
je crois.
Bayou,
il est arrivé troisième. Bayou, il n'y a quand même pas.
Voilà, il a fait un score convenable. L'écologie intéresse.
Avec une union un peu particulière.
Il y a des maires écologistes aujourd'hui dans les grandes villes.
Il y a des maires de grandes villes écologistes.
Bordeaux, Lyon,
on en parle de plus en plus. Donc, il y a peut-être un moment de l'écologie. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écologistes. Yannick Jadot, même tous, ils ont participé à ces réunions d'alliance des gauches. Moi, je trouve qu'il devrait, tactiquement, je pense, même si peut-être à une autre époque, j'aurais trouvé ça super, mais là, on a très bien vu ce que ça a donné avec Benoît Hamon, 6%.
Donc, il ne faut pas qu'il se range derrière le Parti Socialiste.
Moi, je pense pas. Moi, je pense que
ils se sont même à Paris unis avec les Insoumis.
La soupe de logo, en radical. Pensant que tout va s'additionner, c'est pas bien. Non, c'est ça, c'est pas bien. On a un programme, on le défend, on y va jusqu'au bout. Et après, peut-être effectivement, s'il y en a un qui émerge comme ça, il va falloir peut-être faire des alliances. Mais je crois qu'on se perd trop dans les alliances plutôt que dans le programme et la clarté envers les électeurs.
Cohérence.
Voilà. Et là, c'est vrai qu'ils ont un moment avec quand même l'écologie qui est très tendance chez les jeunes générations.
Ah bah justement, la jeune génération incarnée par notre ami Louis Boyard,
20 ans.
Ce sera toi, ton vote, c'est le vote écolo?
Moi, je sais pas encore pour qui je vote à la présidentielle. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premièrement, je suis content de l'existence d'Europe Écologie Les Verts parce qu'ils poussent à mettre dans le débat les questions écologiques. J'en parle peu, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et regardez par exemple ce qui s'est passé au Canada, ce qui se passe aussi dans l'Oural. Il y a des centaines de personnes qui meurent parce qu'il fait trop chaud et bientôt ça va arriver à Paris. Je trouve qu'on en parle pas assez. C'est l'enjeu du siècle. Voilà. Je suis content que ce parti vienne et qu'on se mette à en parler. Mais par contre, on a le PS qui se la joue écolo, Europe Écologie Les Verts, les écolos, Mélenchon qui veut jouer écolo, Roussel qui veut jouer écolo. Tout le monde dit on est dans un siècle où on a d'immenses enjeux où l'humanité va en souffrir si on ne fait rien, et ils ont raison, mais pourtant ils se présentent tous les quatre et ils se donnent aucune chance de gagner. Donc moi je me trouve très emmerdé en tant que jeune et en tant qu'écologiste de me retrouver dans une situation où toutes les personnes qui pourraient diriger correctement le pays pour faire face à cet enjeu ne sont pas capables de gagner. Voilà, c'est ça ma frustration par rapport à cette élection à la gauche et aux écologistes.
Mais est-ce qu'on peut pas inverser ce que tu dis? Est-ce que tu ne penses pas que l'écologie est pervertie lorsqu'on la mélange avec la politique?
Mais non, parce que.
Est-ce que forcément la gauche doit faire une OPA sur l'écologie?
Mais je pense que, mais c'est que mon avis, mais je pense que l'écologie est extrêmement politique. Et qu'il n'y a, que la politique qui nous permettra de nous en sortir.
Alors, ça le fait toujours pas venir.
Mais non, mais ça le fait. Mais regarde, il arrive à pied.
C'est ce qu'on vient de nous dire. Il a pris un métro.
Ah, il est là? Oui. Ouais, voilà. C'est bon. Le voilà.
Le voilà.
Ah, allez, il pourra vous expliquer pourquoi est-ce que l'écologie, c'est politique.
Monsieur Piolle, bonjour.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Que s'est-il passé?
Oh, un petit incident de métro.
Voilà. Ben voilà. Les transports en commun, c'est bien, mais.
Ben, c'est bien. Bon, ça marche plutôt mieux que la voiture, quand même.
Enfin, c'est pas la meilleure des publicités.
Pour les transports en commun? Voilà. Mais si, ça montre qu'ils sont utilisés par tout le monde.
Ah bon. Bon, on a commencé sans vous, monsieur Piolle. On parlait de cette primaire écolo qui se met en place avec donc trois candidats. Il y en aura peut-être d'autres. Vous-même, bien sûr, Sandrine Rousseau, Yannick Jadot. Qu'est-ce qui vous distingue finalement des autres?
C'est les parcours qui distingue, c'est la façon dont on propose de conduire le changement nécessaire. Vous avez vu, là, avec le rapport du GIEC la semaine dernière, avec le rapport du Haut Conseil pour le Climat, qui dit que la France va deux fois trop lentement et moins vite que les pays européens. Tout à l'heure, la décision du Conseil d'État, qui demande au gouvernement, sous 9 mois, de se mettre en conformité avec ce qui a été voté. C'est sur un recours de la ville de Grande-Synthe, de Paris et de Grenoble. Donc, il y a un impératif. Moi, ce que je propose, c'est une méthode d'abord collective. Je ne crois pas aux hommes et aux femmes providentiels. Nous travaillons en équipe, c'est mon caractère. Je suis un meneur d'équipe. Et puis aussi, l'expérience de l'élu local, l'expérience de la victoire, de l'exercice du pouvoir et de la victoire à nouveau.
On s'interrogeait, quel est l'intérêt de voter à une primaire écologie si c'est pour vous voir, si vous gagnez par exemple, vous rangez ensuite derrière une candidature socialiste comme la dernière fois. Est-ce que cette fois-ci, il y aura vraiment un candidat écolo?
Il y a eu des candidats à l'élection présidentielle. Depuis 1974, il y a eu des candidats à chaque élection présidentielle, sauf celle de 2017. L'écologie...
Donc c'était un accident 2017.
C'était une autre histoire. Et pour la première fois, les écologistes vont devoir choisir un candidat et tous les sympathisants qu'ils souhaitent, qui puissent rentrer à l'Élysée, là où jusqu'à présent, nous choisissions des candidats qui étaient des porte-voix. On disait qui est le plus adapté pour faire le plus de bruit possible dans la campagne. Là, nous disons qui est le plus adapté pour porter un fédéré derrière lui ou elle, faire la campagne et être président. Gagner, ça veut dire exercer le mandat.
Sans vous alliez. Alors, une fois que vous avez gagné la primaire...
On peut fédérer. Regardez ce que j'ai fait à Grenoble. Moi, depuis mon engagement en politique, qui est tardif, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie avant, donc je me suis engagé en 2010. Je suis vraiment pas un né écologiste, je le suis devenu, et nous avons fédéré cet arc humaniste. C'est pour ça que je me suis engagé en politique, pour dire les écolos, ils avaient plein de qualités, le sens de l'intérêt général, le travail, la compétence, mais ils étaient plutôt dans des lanceurs d'alerte et du contre-pouvoir. Et moi j'ai dit, en fait non, nous devons maintenant accéder aux responsabilités, ce que nous avons fait en 2014 et ce qui a été fait largement en 2020.
Donc autrement dit, s'il y a plusieurs candidats représentant la gauche et l'écologie au premier tour, c'est pas grave, ça sera comme une primaire finalement.
On trouvera, je pense, les moyens de se fédérer. Et je pense que l'axe, c'est l'écologie politique.
C'est pas ce que disent. Parce que les socialistes, ils disent le contraire. Ils disent, maintenant, l'axe, c'est nous. Parce que vous voyez, à la régionale, on a fait un meilleur score qu'eux.
Ah, c'est ce qu'ils disent depuis une quarantaine d'années, oui.
Ouais. Mais ça, il faut qu'ils changent.
Pour les sortants.
Et donc, c'est fini, ça.
Ça me semble pas être la poussée, la dynamique du moment, me semble pas être celle-là. Les enjeux sont des enjeux du climat avec leurs conséquences sociales qui sont majeures dans le monde économique, dans notre vie quotidienne, sur l'alimentation, la façon de se déplacer, le logement. Tout ça, c'est des thématiques qui poussent et qui concernent notre vie quotidienne.
Quelle serait votre première mesure à l'Élysée? Première mesure, vous êtes président de la République, Éric Piolle, quelle est votre première mesure?
Lancer un référendum en utilisant l'article 11 de la Constitution, parce qu'il nous faut déverrouiller la démocratie, déverrouiller l'avenir. Là, nous sentons tous bien qu'il y a une espèce de climat général, d'angoisse, d'insécurité, ce que je vois moi en me déplaçant toutes les semaines un peu partout en France depuis plus de 6 mois. On sent cette insécurité sociale, physique, existentielle. Et donc, il faut déverrouiller cet avenir, là où aucun des présidents n'a réussi à réformer l'institution.
Référendum sur quoi, alors, président ?
Référendum, 5 points. Rentrer le climat dans l'article 1er de la Constitution. Grosso modo, la justice demande à le faire. Vous avez vu la décision du Conseil d'État ce matin. Deuxièmement, séparer vraiment la justice de l'exécutif, ce qui a été promis par plein de candidats, jamais fait. Donc, allons-y. introduire, déverrouiller la démocratie, introduire le référendum d'initiative citoyenne, supprimer l'article 13 et l'article 16 de la Constitution, donc c'est les pleins pouvoirs et le fait que le chef de l'État nomme seul aux emplois civils et militaires, et de la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Donc c'est des propositions qui ne sont pas partisanes, vous le noterez. On peut utiliser sa légitimité de président juste élu pour permettre des réformes plus tard qui continueront à moderniser notre démocratie.
Gilles-William Golindel.
Vous avez évoqué l'insécurité, monsieur Piolle.
Dans le micro, s'il te plaît.
Voilà. Vous avez évoqué l'insécurité. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous êtes aussi hostile à la vidéosurveillance à Grenoble.
Je ne suis pas hostile. Je suis scientifique et pragmatique. Donc je regarde les études.
J'ai vu vos déclarations. Dès que vous êtes arrivé à Grenoble.
Dès que je suis arrivé, vous pouvez prendre toutes mes déclarations et regarder les études. Donc là où ça sert, ça marche, on en met. Donc les transports en commun, les halls d'immeubles, les bâtiments publics, dans l'espace public, les études montrent que la vidéosurveillance ne sert pas à grand-chose, qu'il faut de la présence humaine. Moi, ce que je dis, c'est qu'en matière de sécurité, le régalien est fort, donc il faut que nous comprenions quelle est la stratégie de sécurité. Aujourd'hui, je considère que les politiques qui ont été menées sont des politiques laxistes parce qu'elles déconnectent le discours qui est extrêmement virulent, les coups de menton depuis Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, Gérald Darmanin en étant l'incarnation ultime, et la réalité qui fait que personne ne peut expliquer comment sont répartis les effectifs de police et de gendarmerie sur le territoire, sur quelle base, sur quels critères, quelle est la stratégie et comment on la construit avec les élus locaux, ce que nous demandons également avec l'Association des maires des grandes villes France urbaine.
C'est quoi une bonne police pour vous, Éric Piolle, si vous devenez président de la République?
La police, c'est trois choses. C'est un service public, c'est la puissance de l'État, un service public, les gardiens de la paix, c'est la puissance de l'État et c'est une corporation. Aujourd'hui, on entend beaucoup la corporation. Pourquoi ? Parce que leurs conditions de travail sont très très difficiles. Moi, je le vois bien au quotidien à Grenoble. Je discute avec eux. C'est très compliqué. On les envoie au front. On les envoie écoper la mer à la petite cuillère en luttant contre le trafic.
Donc, vous donnerez les moyens à la police ?
Oui, et surtout, ce que j'avais proposé cet automne, c'est de faire un Beauvau, non pas de la sécurité, mais de la justice, parce que c'est une chaîne. N'oublions pas qu'en France, nous avons le taux de récidive parmi les plus élevés d'Europe, 59% de taux de récidive. Nous avons trois fois moins de magistrats qu'ailleurs. Ouais. Et donc, évidemment, si on regarde juste la dimension policière, non pas dans le service public de gardien de la paix, mais en disant « allons mettre des gens en prison » et que le taux de récidive est de 59%, ça n'est pas pragmatique, ambitieux.
C'est aussi parce qu'on n'a pas assez de prison.
Le taux de récidive ? C'est parce qu'on a aujourd'hui le taux de prisonniers, l'un des taux de prisonniers les plus élevés d'Europe.
Peut-être parce qu'ils sont maltraités.
Les moyens qui sont donnés à la justice.
Peut-être parce qu'ils sont maltraités en prison.
On est au-delà dans les pays de l'OCDE. On est classé au-delà de la 40e place sur les moyens que l'on donne à la justice.
Donc vous ne construirez pas de nouvelles places de prison si vous êtes président d'un pays.
Aujourd'hui, on bat des records chaque année sur le nombre de prisonniers. J'ai pas l'impression qu'on soit plus en sécurité avec plus de gens dans les prisons.
On bat des records du surpopulation carcérale.
Aussi.
Donc là, il faut peut-être plus de prisons.
Il faut surtout une stratégie globale qui va de la prévention, la répression. Notre police, la police de proximité qui avait été conçue par M. Chevènement dans les années 90, c'était une police de proximité. C'est faire de la prévention autant que faire se peut, de la répression quand c'est nécessaire, et derrière avoir une chaîne qui passe par la réinsertion. Je rappelle que quand on envoie quelqu'un en prison, c'est à la fois une sanction, le punir, c'est à la fois protéger la société pour l'éloigner, et c'est à la fois normalement le réinsérer pour qu'il soit moins dangereux quand il sort.
Juste une question, je suis dans la parole, mais j'ai vu que vous vouliez mettre en place un ISF climatique.
Oui,
c'est
proposition de Greenpeace.
C'est quoi un ISF climatique ?
C'est permettre, là, on a une accumulation de patrimoine en France et des écarts sur le patrimoine qui est extraordinaire, et ces écarts se traduisent également sur la question du climat. Le rapport Oxfam qui a été publié cet automne, les 10% les plus fortunés en France polluent, émettent 18 tonnes de gaz à effet de serre par tête de pipe et par an, là où les 50% les moins fortunés, c'est-à-dire la moitié de la population, est à 4 tonnes, 4 fois moins polluant que cela. Donc évidemment, il nous faut à la fois refinancer la transition énergétique et le faire en limitant ceux qui sont les plus émettants en termes de gaz à effet de serre.
C'est une fiscalité écologique.
C'est une fiscalité écologique qui cible les plus riches. Nous ne changerons pas de société si nous ne mettons pas un couvercle sur cette logique de prédation.
Pour éviter cette fiscalité.
Non, c'est pas une question d'être contre les riches. C'est pas une question d'être contre les riches. C'est juste dire que aujourd'hui, ce système de prédation, c'est ça qui attaque le vivant. C'est ça qui fait de la déforestation. C'est ça qui considère les êtres humains comme une ressource qu'il faudrait exploiter. Et donc, évidemment, nous devons travailler travailler, non seulement à l'émancipation sociale, mais aussi, rappelez-vous Roosevelt en 33, hein, sa première décision quand il arrive à la présidence des États-Unis,
c'était post-crise 29
de mettre. Aussi, hein, ouais. Oui, bah là, vous savez, c'est la crise que nous vivons est bien plus grave.
En conséquence, l'avenir. Pour
Vous avez vu, enfin, au Canada, il fait 50 degrés. Ah, et
oui,
il est mort.
Ah, oui, d'accord.
Enfin, les êtres humains sont pas faits pour résister à la chaleur. Quand il fait froid, on se couvre. Oui. Quand il fait chaud, on est très, très mal. Les zoonoses, on vient de voir là, on vit une zoonose majeure. Nous savons déjà, je discutais l'autre jour avec le PDG d'un grand groupe pharmaceutique, nous savons déjà que nous allons vivre d'autres zoonoses. Donc notre altération de l'environnement a une conséquence directe sur nos conditions de vie et nos conditions de vie de toute l'humanité.
Louis Boyard. Je connais un peu vos positions sur le rapport au marché. Vous comprenez que l'écologie va imposer parfois d'entraver le marché. Mais nous, qui sommes jeunes, on a des inquiétudes vis-à-vis de l'emploi, on a des inquiétudes vis-à-vis de la poursuite d'études. Et qu'est-ce que vous répondez à cette jeunesse qui demande, mais c'est bravo de faire des choses pour l'écologie, mais qu'est-ce que vous faites pour l'emploi ?
C'est central, c'est connecté en fait. Si on ne fait rien pour l'écologie, vous allez avoir l'industrie automobile qui va s'effondrer, comme s'est effondrée la sidérurgie, comme s'est effondré le textile en France, comme se sont effondrées les mines de charbon. Ça a été des centaines de milliers de personnes au chômage. La situation, c'est qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, l'espérance de vie est 4 années inférieure à la moyenne nationale. 4 années d'espérance de vie. Imaginons-nous, voilà, vous décidez que vous projetez, vous allez naître, vous êtes un nouvel enfant à naître, vous savez pas si vous êtes une femme ou un garçon, vous savez pas où vous allez naître. Bah, vous avez envie qu'il y ait un peu de justice sociale. Moi, je viens du monde économique. J'ai travaillé 18 ans dans l'industrie, j'étais cadre dirigeant. Nous sommes tous, aujourd'hui en France, il y a un consensus autour d'une économie mixte, une part publique, une économie de marché. La question, c'est comment régule-t-on cette économie de marché pour qu'elle assure des sécurités pour ceux qui y travaillent, qu'elles chérissent aussi les biens communs et le vivant, qu'elles en prennent soin et qu'elles nourrissent notre désir de sens, parce que nous ne sommes pas que des acteurs économiques. Ce qui nous inspire, c'est la culture, c'est la beauté, c'est les liens humains, c'est s'accomplir dans nos activités, dans notre
mais
travail.
Mais c'est aussi remplir le frigo.
Évidemment, c'est connecté. Voilà, nous sommes à la fois, vous savez, j'adore Edgar Morin, j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir l'occasion de discuter avec lui. Nous sommes à la fois des animaux, avec des moyens de subsistance, des individus isolés, qui se demandent qu'est-ce qu'ils font sur Terre, et des membres constituants de communautés. Et donc, dans cette communauté, nous avons besoin d'y avoir un rôle, une contribution.
J'ai une toute petite question, parce qu'elle est d'actualité, puisque c'est vous-même qui avez relancé ce débat, la question du port du burkini, puisque vous avez écrit au Premier ministre Jean Castex sur cette question du burkini dans les piscines municipales, et notamment celle de Grenoble, et vous lui demandez de clarifier les règles. Mais si vous êtes élu président de la République, alors, est-ce que vous autorisez le port du burkini dans les piscines municipales ?
Alors, premièrement, je précise que c'est pas moi qui ai mes sujets sur la table, c'est un amendement du Sénat qui visait à interdire le burkini. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu des intrusions il y a 2 ans dans les piscines de Grenoble. Ouais. À l'époque, le Premier ministre Édouard Philippe et Mme Schiappa ont dit « il y a un problème de laïcité ». Nous avons dit « non, en fait, on a verbalisé les personnes, les militantes qui s'étaient introduites, non pas parce qu'il y avait un problème de laïcité, mais parce qu'elles avaient enfreint le règlement intérieur, qui n'est basé que sur l'hygiène et la sécurité ». La piscine est un endroit où vous avez le droit de manifester vos convictions religieuses. Donc, si aujourd'hui le burkini, les maillots couvrants sont interdits dans les piscines de Grenoble, ce n'est pas pour des raisons de laïcité, ce n'est pas pour des raisons anti-religieuses.
C'est pour des raisons d'hygiène.
C'est juste pour des raisons d'hygiène et sécurité. Ce que nous disons là, c'est de dire plutôt que ce soit chaque mairie avec des piscines qui fasse son étude et son interprétation des conditions d'hygiène, autant le faire à l'échelle nationale parce qu'a priori, ces choses-là doivent se mutualiser.
Vous êtes président, vous tranchez, qu'est-ce que vous décidez alors ?
Ah mais il n'y a pas matière à interdire le burkini à cause du burkini, de même que je n'ai pas à interdire si vous portez une croix sur votre épaule. Je n'ai pas à vous interdire l'accès à la piscine. Vous avez le droit. La piscine est un espace public, un espace recevant du public qui suit les mêmes règles que dans la rue. Vous pouvez y manifester vos convictions religieuses. Les seuls endroits où ce n'est pas possible, c'est 1. Quand vous êtes fonctionnaire, neutralité de l'État. 2. À l'école, suite à la loi de 2004. Et ça va très bien comme ça.
Gilles William.
Et le naturisme.
Si vous pensez... Il est interdit dans les piscines pour des mêmes raisons d'hygiène.
Et pourquoi en quoi le burkini serait-il plus hygiénique ?
Plus hygiénique que le naturisme. Je comprends pas votre question.
Je comprends pas.
Non, mais la seule question qu'on se pose sur les maillots, c'est pour ça qu'on interdit les shorts.
Oui.
Les shorts dans les piscines sont interdits. Pourquoi ? Parce que vous allez jouer au foot derrière, que ça flotte, et après vous allez vous baigner.
Vous ne voyez pas quand même l'islam politique derrière le burkini ?
Ah si, je combats l'islam politique, mais on ne peut pas. C'est
mais
pas
vous ne voyez pas la tendance de l'islam politique derrière le burkini ?
Bien sûr.
Donc, ça ne vous dérange pas de pouvoir justement aider l'islam politique à s'implanter?
C'est l'inverse. Je crois que oui. en mettant des discriminations comme ceux qui veulent interdire, le ministre de l'Éducation nationale qui voulait interdire les femmes voilées d'accompagner dans les écoles, c'est en pointant des discriminations comme cela qu'on fait une atteinte à la laïcité et qu'on favorise l'islam politique. Moi, je lutte contre l'islam politique, mais en ayant en tête la loi de 1905 et en l'ayant solidement en tête.
Et dans les mairies, vous pensez qu'on peut présider une mairie
si on est citoyen
lors du vote et être voilé?
Ben oui, vous êtes citoyen. Ouais. Ceux qui tiennent les bureaux de vote, ce sont des citoyens. Oui. Ils ont le droit, là aussi, d'avoir des signes religieux. Par contre,
Même lorsqu'ils tiennent un bureau de vote.
Oui, ils agissent en tant que citoyens. Ouais. La démocratie, d'accord, et les bureaux de vote sont tenus en tant que citoyens. C'est le débat qui a animé l'Assemblée ces derniers jours. Oui. Je suis extrêmement clair là-dessus. Par contre, quand vous êtes fonctionnaire, vous affichez votre neutralité et donc là, vous ne portez pas de signe.
Vous avez une délégation de service public.
C'est pas une délégation de service public, c'est une contribution en tant que citoyen, d'accord, à la démocratie. Ce n'est pas pareil. Il faut pas se mélanger les pinceaux, sinon il y a un glissement et ce glissement en fait entraîne des discriminations.
Parce qu'il y a une personne qui peut être voilée dans le bureau de vote. Et une autre
les seuls vainqueurs de ce débat, c'est l'islam politique, d'accord, d'un côté, l'extrême droite de l'autre. Donc soyons clairs sur nos valeurs. Ah bah, relisons le texte de 1905.
Vous rendez davantage victorieux l'islam politique en prenant ces positions là.
Du tout. Je prends absolument pas ça. Je crois que ce glissement sur les valeurs est dramatiquement dangereux. Revenons à l'esprit de la loi, les débats et le texte intégral de la loi de 1905, plutôt que de faire des lois successives parce qu'on n'applique pas celle-là. Rappelons aussi que le gouvernement a fait baisser le nombre de formations pour les enseignants à laïcité. Ça a été pointé par l'Observatoire de la laïcité il y a 2 semaines. Donc en pratique, il y a un discours très virulent et les actions concrètes, celles-là ne sont pas mises en place.
Merci Éric Piolle, maire de Grenoble, candidat à la primaire Europe Écologie Les Verts.
Merci d'avoir
parlé les GG. Rendez-vous
19 et 26 septembre, vous pouvez vous inscrire à partir du 12 juillet et je vous invite aussi à rejoindre mon mouvement, tout à fait, une certaine idée
c'est
de
gratuit.
Demain.
Merci.
C'est gratuit.